Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès, un centre de réflexion classé à gauche, paru le 21 février dernier. C'est le politologue Jérôme Fourquet qui en est l'auteur et sa thèse est simple. En un peu plus de 30 ans, depuis 1985, les classes favorisées françaises ont fait sécession et se sont séparées du reste de la population et notamment des classes populaires. Selon lui, c'est valable sur le plan urbain, sur le plan scolaire, sur le plan des loisirs, dans le domaine politique et ultimement dans la fiscalité. Il semble aujourd'hui y avoir deux France qui ne se parlent plus, ne se comprennent plus. Les élites et le peuple français sont-ils définitivement irréconciliables? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Guillaume Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste au magazine Alternatives économiques et Philippe Crevel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Première question, messieurs. Êtes-vous d'accord sur le constat de l'étude de la Fondation Jean Jaurès? Les élites font-elles sécession? Philippe Crevel.
Je suis pas tout à fait d'accord. Premièrement, il y a toujours eu des élites à travers l'histoire. Et il y a toujours eu, on va dire, le peuple, les classes moyennes. Ce qui change depuis une vingtaine d'années avec la mondialisation, avec l'ubérisation, c'est vrai qu'il y a, on va dire, une segmentation un peu plus marquée entre les 1% ou les 1 pour 1000 de la population qui peut s'enrichir, qui peut avoir, en fait, qui obéit à des règles mondiales, et le reste de la population. En revanche, en France, l'écart entre les plus riches et les plus aisés, et pardon, les plus pauvres, ne s'est pas accru, si on prend le coefficient de Gini, etc. Il n'y a pas eu d'augmentation. Le taux de pauvreté est resté à peu près constant ces 10 dernières années. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une véritable révolution. Simplement, c'est vrai qu'il y a le 1%, le 1 pour 1000, qui est en train de partir au niveau mondial, quand le reste de la population essaie de se démener pour maintenir son niveau de vie. C'est vrai que ce sont les classes moyennes, en revanche, qui souffrent parce qu'il y a une concurrence directe des pays, on va dire, émergents sur les activités autrefois remplies par les classes moyennes et qui a ce sentiment de déclassement. Et c'est plutôt un ressenti aujourd'hui qu'une réalité.
Guillaume Duval, c'est un ressenti ou c'est une réalité? Est-ce que les classes moyennes sont vraiment écartelées?
Il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, les très riches qui font vraiment sécession, d'abord sur le plan fiscal, en utilisant tous les moyens de la mondialisation pour ne pas payer d'impôts et donc se sentir moins solidaire du reste de la population. Mais ça concerne effectivement les 1%. Et parallèlement, il y a un autre phénomène qui est massif surtout en France. Enfin, c'est un des pays développés où ça a été le plus important au cours des 40 dernières années. C'est l'accès à l'enseignement supérieur. Donc vous avez, moi quand j'étais gamin, il y avait 10% des gens qui allaient à la fac, etc. Aujourd'hui, on est à 40 ou 50%. Donc vous avez une classe de diplômés, je dirais, qui s'est massifiée. Et qui du coup a pris l'habitude de vivre entre elles, hein, notamment dans les centres-villes des grandes métropoles, etc. Et s'est coupé, c'est vrai, beaucoup plus que dans le temps, des classes populaires, des gens qui n'ont pas fait d'études, des gens qui sont des smicards, des ouvriers, etc. Donc entre ces classes moyennes qui étaient juste quelques cadres forcément en contact avec d'autres ouvriers, employés, etc. Et la situation d'aujourd'hui où on a des boîtes où il n'y a plus que des cadres, en gros, il y a un écart fondamental qui s'est creusé. Donc c'est une deuxième division entre les couches populaires qui continuent à exister, qui continuent à avoir une vie très difficile, souvent sur le plan financier, à habiter dans des quartiers difficiles, etc. Et ces classes moyennes qui se sont autonomisées parce que massifiées, là, il y a un nouvel écart qui s'est creusé aussi.
Ça fait longtemps que ce thème est dans le débat public. On découvre pas avec cette étude. C'était le thème de campagne de Jacques Chirac en 1995, la fracture sociale. Philippe Crevel, comment ça se fait qu'on n'a pas vu arriver la chose?
Premièrement, parce qu'il y a des phénomènes, on va dire, structurels, de tendances longues. C'est lié, premièrement, au changement de mode d'organisation, on va dire, professionnel, avec la disparition d'un certain nombre d'emplois au niveau ouvrier, au niveau employé, on va dire, avec faible qualification. Donc là, une concurrence relativement forte au sein de cette sphère. Et d'autre part, il y a, on va dire, une au niveau de l'urbanisation, il y a également un phénomène, c'est une concentration de plus en plus forte de la population sur les grandes agglomérations. Et donc, c'est vrai, avec des problèmes de logement majeurs, des problèmes de transport accrus, qui fait que la tension sociale et la tension économique a augmenté depuis 1995 et le fameux discours de Jacques Chirac sur la fracture sociale. Et puis, il faut pas oublier que aujourd'hui, l'information circule beaucoup plus rapidement, ce qui était peut-être plus souterrain, moins perçu, parce que c'est vrai que le côté segmentation de la société a toujours existé. Hein, au 19e siècle, évidemment, il suffit de lire Balzac, il suffit de lire Zola.
Il suffit de visiter un immeuble haussmannien, en fait.
Tout à fait, avec les différents étages. Simplement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible. Ce qui est aujourd'hui en cause, c'est que le système social français, qui est quand même le plus développé au sein de l'Union européenne, voire du monde, avec 34% du PIB, donc qui est affecté à la protection sociale, donc plus du tiers du PIB, on voit qu'on a aujourd'hui un problème pour résoudre ce divorce ou cette segmentation de la société.
Guillaume Duval, je rebondis sur l'aspect urbain. Est-ce que la mixité sociale dans les grandes villes existe toujours ?
Non, elle a beaucoup reculé. C'est vrai que c'est un des aspects à la fois les mieux documentés et les plus spectaculaires. C'est que plus on regarde les choses de près, donc à une grande échelle en termes géographiques, plus on se rend compte que les quartiers sont de plus en plus ségrégés socialement. Et ça a beaucoup progressé depuis 30 ou 40 ans. Il y a un jeu entre la ségrégation immobilière et la ségrégation scolaire en particulier qui accélère ce mouvement. Donc les gens se regroupent là où il y a des bons lycées, des bonnes écoles, et ils fuient les mauvaises écoles, etc. Qui fait que là, on est vraiment dans un échec massif des politiques publiques qui ont toujours cherché, au contraire, plutôt officiellement en tout cas, à favoriser la mixité sociale. Il y a la fameuse loi SRU en particulier qui impose un certain nombre de logements sociaux qui n'est pas respecté par beaucoup de villes aujourd'hui et c'est un gros problème pour notre société.
Philippe Crevel, vous voulez réagir ? J'allais vous reparler de cette loi SRU avec le taux de HLM minimum.
Neuilly-Auteuil, Passy, ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. La ceinture rouge qui donc était autour de Paris, c'était avant la Seconde Guerre mondiale déjà que ça avait commencé. Ça s'est poursuivi après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que évidemment que les personnes modestes, à faible revenu, sont, on va dire, obligées d'aller de plus en plus loin sur la couronne parisienne, voire peut-être parfois peuvent revenir justement à travers un phénomène qui est la construction de logements sociaux, qui a comme conséquence de faire partir les classes moyennes, par exemple de Paris. Paris, espace clos, un foncier extrêmement limité. C'est vrai que là, ce qu'on voit, c'est le départ des classes moyennes avec donc un espace qui est aujourd'hui préempté par les gens qui ont les moyens, donc on va dire les riches ou des très riches, qui, on va dire, au niveau social, peuvent accepter en leur sein des personnes à faible revenu, parce que ce sont eux qui vont apporter des services, on va dire, de proximité. Et là, ce sont les classes moyennes qui sont envoyées ailleurs. Donc on peut avoir un phénomène qui ressemble un peu à ce que c'était le 19e siècle, au temps, justement, de Zola et de Balzac.
Guillaume Duval, la gentrification de la banlieue rouge, c'est une réalité aujourd'hui. Ça veut dire que les gens sont obligés de s'éloigner de plus en plus ?
Oui, enfin, il y reste quand même dans la banlieue, l'ex-banlieue rouge plutôt, il faudrait retenir le 9-3, enfin la Seine-Saint-Denis reste le département le plus pauvre de France avec des situations sociales très difficiles, mais c'est vrai que dans l'immédiat environnement de Paris, à Montreuil, etc., il y a une certaine gentrification qui se produit. C'est un phénomène classique, récurrent, mais c'est vrai que ça oblige aujourd'hui les pauvres à aller vivre de plus en plus loin de Paris, ce qui pose dans le contexte où on est aujourd'hui, où on est obligé de taxer beaucoup les voitures, l'essence, etc., pour des raisons écologiques, des problèmes assez difficiles à ces populations. Donc c'est vrai que on a beaucoup souligné au cours des dernières années, des dernières décennies, l'existence d'une pauvreté rurbaine, donc dans les zones rurales, périurbaines, etc., qui posent des problèmes particuliers, qui ne sont pas ceux des banlieues ou des quartiers populaires des grandes villes.
Alors, l'école, vous en avez parlé un petit peu, et c'est dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, on explique que les élites se regroupent leurs enfants dans des écoles privées. Est-ce que l'école privée, elle est passée du statut d'école confessionnelle à une école de l'entre-soi social, Philippe Crevel?
Là, c'est un peu l'ironie de l'histoire. Dans les années 60-70, les écoles privées avaient mauvaise presse. Y allaient soit les fils à papa ou les filles à papa ou ceux qui n'arrivaient plus dans le système public. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un retournement de la situation. Les écoles privées sont devenues des lieux, on va dire, de protection, hein, de sécurisation d'une certaine élite. Et c'est vrai que c'est un peu également l'échec de l'école publique, de ne pas avoir réussi à assurer une certaine mixité et d'avoir assuré un certain niveau légitime pour l'ensemble de la société. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt l'échec de l'école publique, je dirais, et ça a eu comme conséquence que les personnes aisées se sont regroupées. Et il y a un autre problème important, c'est le problème d'accès aux grandes écoles, parce que les grandes écoles n'ont pas suivi la massification qui a été évoquée tout à l'heure. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui est issu d'un milieu modeste de rentrer à HEC, à Sciences Po ou à Polytechnique qu'auparavant.
Est-ce que, Guillaume Duval, quelque part, les meilleurs lycées publics, parce qu'il y a d'excellents lycées publics, ne participent pas à cette élitification, si je peux dire, élitisation?
Il faut se rendre compte, les Français ne le savent pas, mais qu'on a un des systèmes scolaires les plus extraordinaires au monde. On est un des pays développés où la place du privé est la plus importante. Mais en fait, c'est pas du vrai privé. C'est du privé financé par le public. Donc, on a un système où nos impôts finance justement le phénomène que vous décriviez tout à l'heure de ségrégation sociale accrue, parce que un certain nombre des écoles ne sont pas soumises en particulier à la carte scolaire, etc., et aux contraintes qui s'imposent au secteur public. Donc ça, c'est un scandale et c'est un des défauts majeurs du système public français. Tout à l'heure, Philippe Crevel disait que on était un des pays où il y avait le plus de dépenses sociales et dépenses publiques, et pour autant, ça fonctionnait pas. Mais c'est parce qu'il y a à l'intérieur de ces dépenses publiques des systèmes comme celui du privé, en particulier de l'enseignement privé, qui permettent de détourner les fonds publics et de financer des filières discriminatoires. Et ça, c'est un vrai problème en termes de politique publique.
Alors, c'est une des questions qui est soulevée par l'étude, par Jérôme Fourquet, la suppression du service militaire. Est-ce que finalement, quelque part, Philippe Crevel, c'est pas une économie qui a coûté cher à la société française?
Quand le service militaire a été supprimé, c'est qu'il ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il n'assurait plus du tout la mixité sociale. C'était le royaume du piston, des avantages. Et il y avait même d'ailleurs plus qu'un service, il y avait une direction du piston au ministère de la Défense. Donc, il y avait déjà un premier échec. Deuxièmement, c'est un système qui était extrêmement coûteux. Les militaires n'avaient plus les moyens d'encadrer. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une démission des militaires. C'est qu'ils avaient du mal à gérer un public qui était beaucoup plus difficile que ce qu'ils avaient connu dans le passé. Et donc, ils étaient plutôt demandeurs de la professionnalisation, à la fois pour des raisons, on va dire, d'organisation, puis également pour des raisons purement humaines. Il y avait une incapacité à gérer, on va dire, dans un système qui est de plus en plus technologique, on va dire, des bataillons d'appelés. Donc malheureusement, le système ne fonctionnait pas et donc on en a tiré les conséquences. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'intégration de jeunes en particulier, ça peut, donc on peut constater qu'il y a eu évidemment un avant et un après, mais je veux dire que le système était déjà à bout de souffle au moment où on l'a supprimé.
Et je peux témoigner qu'à la fin, le mélange social était effectivement tout relatif puisque j'étais dans les derniers. Qu'est-ce que vous pensez, Guillaume Duval, de la proposition d'Emmanuel Macron de rétablir un service national, pas forcément militaire, mais national?
Oh, je pense que ça fait partie des... Enfin, je veux dire, il ne faut pas penser sur ces questions-là, mais ça a déjà été très bien dit par Philippe Crevel à différentes reprises, que c'était vachement mieux avant. Il y a toujours eu cette ségrégation sociale, y compris dans l'armée et dans le service militaire. Alors après, aujourd'hui, réintroduire un service militaire, autant ce que j'ai compris de ce que veut faire le président de la République, je pense que ça ne répond pas... enfin, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème qui est cette question d'intégration sociale, en particulier des jeunes et des jeunes des milieux populaires dans certains quartiers, etc. Je pense que ce qu'il faut leur trouver, c'est d'abord du boulot, c'est d'abord de l'activité économique, c'est d'abord d'avoir une école qui soit centrée sur la réussite de tous et qui arrête. Si vous voulez, le problème de l'école française, c'est qu'on a conservé la logique d'avant où il s'agissait de sélectionner une toute petite élite qui irait dans les grandes écoles ou dans l'université par l'échec des autres qu'on renvoyait sur le marché du travail. Aujourd'hui, on n'est plus comme ça, mais on a gardé cette logique d'échec, de sélection par l'échec. Il faut avoir une école qui soit une école de la réussite de tous, et notamment des enfants des classes populaires. C'est pas du tout ce qu'on a fait jusque-là. C'est pas du tout la faute des pédagogues. C'est beaucoup d'autres questions qui sont en jeu. C'est une question beaucoup plus centrale à mes yeux que celle de rétablir un gadget pour faire plaisir au président parce qu'il est marqué dans son programme.
Autre question qui, je pense, est assez centrale dans cette étude, c'est la question fiscale. Est-ce que l'exil fiscal, comme le décrit Jérôme Fourquet, des classes favorisées, est une réalité, selon vous, Philippe Crevel? La séparation fiscale, voilà.
Ça a été dit tout à l'heure. Il y a une partie de la population qui peut évidemment se soustraire aux lois fiscales, premièrement en utilisant toutes les dispositions du Code général des impôts, puis après en jouant sur les règles internationales. C'est évident, on l'a vu à travers certains scandales. Parfois ce sont des pratiques illégales, d'autres fois c'est purement légal, à travers une optimisation internationale des revenus. C'est une évidence, hein. Quand on peut se faire conseiller, on peut trouver la meilleure solution. Il suffit de demander au Rolling Stone ou à YouTube comment ils paient 14 ou 15% d'impôts sur leurs revenus. Hein, et c'est purement légal via le système Pays-Bas-Irlande. Donc ça, c'est connu. Après, ça concerne une toute petite partie de la population. C'est vrai que ça ne concerne pas évidemment ceux qui sont salariés, qui sont donc soumis, on va dire, aux règles classiques. Ça concerne, voilà, le 1%, voire au-delà du 1%. Mais c'est vrai que ça fait partie de cette mondialisation, on va dire, du 1% des élites.
Ça veut dire que c'est inévitable, cette séparation fiscale, Guillaume Duval ?
Même si ça concerne peu de gens, ça a un effet politique et social tout à fait dévastateur.
Question d'exemple, c'est ça.
Question d'exemple et puis question de pression sur les pouvoirs publics. Donc, pour éviter ça, ils abaissent les impôts sur les très riches, mais comme ils ont besoin d'argent quand même, ils augmentent les impôts sur les classes moyennes et sur les pauvres, et ça donne des systèmes fiscaux qui sont indéfendables politiquement et socialement et qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le populisme. Donc, ça a des effets majeurs, même si ça ne concerne que quelques personnes. Physiquement. Oui, on peut en sortir. On a commencé à en sortir depuis... Enfin, si vous voulez, les paradis fiscaux, c'est une question très simple à régler. On sait ce qui s'y passe. On sait... C'est des territoires qui n'ont pas d'armée, qui sont tout petits. Si la France et l'Allemagne se mettent d'accord, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de divisions pour mettre le Luxembourg au pas. Si on ne l'a pas fait, c'est uniquement parce que les dirigeants des grands pays ne voulaient pas faire de peine à leurs riches et à leurs grandes entreprises qui planquent leur fric. Depuis la crise de 2008, elles ont tellement... Enfin, les grands États ont tellement de problèmes à la fois politiques avec le populisme et fiscaux avec leurs problèmes budgétaires qu'ils ont commencé à s'en occuper. Je suis sûr qu'on peut s'en occuper, qu'on peut régler le problème assez vite.
Philippe Crevel, vous allez conclure. Comment on peut lutter contre ce mouvement insidieux, plus ou moins rapide de séparation? Est-ce qu'il y a des moyens des solutions?
Il ne faut pas tomber dans le populisme. C'est vrai que le risque, c'est évidemment... que d'ailleurs les élites utilisent eux-mêmes cette situation pour conserver le pouvoir. Et on constate en Europe que bien souvent, les élites utilisent les slogans en disant « Attention, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres, vous êtes des victimes, etc. » Et ça permet à des populistes en tout genre, je ne citerai pas de nom, mais dans plusieurs États européens, de l'Est comme d'ailleurs d'Europe occidentale, voire aux États-Unis, le trumpisme utilise à fond ce genre de situation pour conserver le pouvoir et pour justement faire donc une politique qui va à l'encontre des intérêts des personnes donc dont on vient de parler. Évidemment, ça passe par une coopération internationale forte au niveau, par exemple, de la lutte contre la fraude fiscale. L'OCDE donc a fait des progrès en la matière extrêmement importants, a permis d'ailleurs de faire pression sur les États, on va dire, style Panama. Et donc, il faut aller dans ce sens-là et aller plus loin.
Merci à vous, Philippe Crevel. Merci à vous également, Guillaume Duval, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Sigrid Azeroual à la coordination, Simon Carteret à la documentation et aujourd'hui à la réalisation, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr. Prochain débat, attention, mercredi, demain soir sur RFI, c'est football et Ligue des Champions avec le 8e de finale, retour PSG-Real Madrid. Bonjour chez vous.